Je comprends. Allez.
Amis auditeurs, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour Pierre. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un chef d'orchestre qui s'appelle Jem Last. Alors Jem Last, de son vrai nom Hans Last, né le 7 avril 1929 à Brême et mort le 9 juin 2015 à Palm Beach en Floride, est un compositeur et chef d'orchestre allemand. Son style est représentatif de l'easy listening, une forme de musique accrocheuse destinée au grand public. Last est né à Emmelingen, un quartier de Brême, d'un père employé au Bremer Starwerken, passionné par la musique. Il transporte un bandoléon et une batterie à l'arrière de son vélo pour jouer à 4 Rechenmark la soirée. En 1943, en pleine guerre, toutes les possibilités de se former à la musique dans le civil étant fermées, il s'inscrit à l'école de musique militaire de Francfort. Les bâtiments de l'école ayant été détruits par un raid aérien, il ira à celle de Bückegum. L'école est fermée en 1945, mettant un terme à ses études musicales. Jem Last entame alors une carrière de musicien professionnel en jouant du piano dans des clubs en zone d'occupation américaine, puis de la contrebasse. Il fait son premier arrangement pour le film The Hunter. Il commence ensuite en tant que bassiste auprès de l'orchestre de danse de Radio Bremen à la fin de 1945. À côté du grand orchestre de danse se forme le Last Becker Ensemble, avec jusqu'à 13 musiciens et qui anime de nombreuses soirées. Il est nommé meilleur bassiste de jazz en 1950 et les deux années suivantes par le magazine populaire masculin Die Gundel. Il joue au premier Dutch Jazz Festival de Francfort, concert publié en disque. À la suite de ses succès, en tant qu'arrangeur de musique de danse pour le Last Becker Ensemble, il est le grand orchestre de danse de Radio Bremen. Cette station lui demande de former un orchestre à cordes qui jouera en direct deux fois par semaine. Je vous invite à écouter un de ses premiers titres qui s'intitule « Obladi, Oblada ». Il quitte en 1955 Radio Bremen qui ne compte pas assez d'auditeurs pour Hambourg, où il est bassiste auprès de l'orchestre de danse de la Northwest Church Rundfunk, où il accompagne souvent des chanteurs en vogue à ce moment et fait aussi des arrangements. En plus de la basse acoustique, il commence à la basse électrique. Jem Last fait aussi des arrangements pour Helmut Zakaria, qui est passé du jazz à la musique populaire et part avec lui en tournée européenne. Il arrange aussi pour Harry Adman et Michael Jarry, pour lequel il écrit de la musique de film We Were in First Match. Bien sûr, comme vous l'avez compris, ce sont des termes allemands. Il sort son premier disque chez Polydor en 1963. Deux disques de Hans Lanz Hün, dit Rosenkavalier, dont un pot pourri des succès des années 1940 et 1950. Un troisième reprend de la musique classique, le tout sans grand succès public. En 1965, il renonce à sa place de bassiste auprès de la NDR. Il sort un nouvel album chez Polydor qui comble cette fois ses attentes. C'est lors de la préparation de la publication de l'album Non-Stop Dancing en 1965 pour le marché international que Polydor se décide pour le nom d'artiste Jem Last, qui est rapidement aussi utilisé en Allemagne. Ce nom est inscrit avec des ombres assez typiques des années 1970 sur les pochettes des albums. Son « Happy Soon » ou son « Heureux » remporte un énorme succès à partir de 1965 et pour deux décennies. Il compte à l'époque à lui seul pour près de 30% des ventes de disques de Polydor en Allemagne. Il est le seul artiste de la maison de disques à obtenir son propre bureau avec une secrétaire. Au début, les couvertures de ses albums privilégient des images de femmes, mais à partir de 1968, il est en photo. En 1973, il reçoit son 100e disque d'or. À cette époque, Elvis Presley n'en compte que 76 en Allemagne et les Beatles 58. Il sort alors jusqu'à 12 albums par an. Autour de 1985, ses producteurs, aussi Deutschler et Werner Klaus, avaient quitté Polydor et les nouveaux dirigeants considèrent Jem Last comme un modèle dépassé. Il perd son bureau lorsque l'entreprise déménage. Le studio de la Ralchette n'est plus disponible et à partir des années 1990. James Lass songe à changer de maison de disque, mais les droits sont de l'entreprise au nom du musicien. C'est ainsi que sortent de nombreuses reprises, pourtant préjudice à la sortie de nouveaux albums. Je vous invite à écouter un deuxième titre qui s'intitule « Brésil ». Il déménage complètement à partir des années 80 en Floride où il installe un studio d'enregistrement et produit des albums. Il rencontre des difficultés financières et est victime d'escrocs lors de ses investissements. Il meurt en Floride en 2015 selon sa volonté. Il est enterré au cimetière d'Olsdorf. James Last adopte un style musical principalement instrumental, souvent swingant et propice à la danse, très en vogue au cours des années 60 et 70, tout en gardant l'aspect de musique légère et de divertissement, souvent mis en relief par des trompettes, une basse incisive assortie de chœurs et de batteries, à l'instar des orchestres de Bert Kampfer, Herb Alpert ou Roberto Delgado. De nombreux succès de variété et presque tous les genres de musique traditionnelle et folklorique, de nombreux pays, tels que l'Autriche et le Mexique, l'Irlande, les musiques de western ou la Russie, sont abordées et reprises par son orchestre renforcé par la rythmique d'un accompagnement modernisé. Les polkas, notamment dans la série Polka Party et les valses viennoises, seront aussi mises à l'honneur dans un style entraînant. Les instruments solistes seront aussi mis en vedette dans sa série « Instruments à gogo » tels que trompette, saxophone, orgamon, guitare électrique, etc. Un second style principalement sera abordé de manière beaucoup plus romantique, mettant cette fois en relief les violons, reprenant avec une touche légèrement modernisée par rapport à la basse, de la batterie, plusieurs mélodies classiques et des airs de Noël. Plusieurs artistes solides s'adjoindront à son orchestre pour quelques compositions telles que le sitariste autrichien Alfon Bauer, le flûtiste de Pan George Zamfir, le groupe folk celtique In Ireland, la flûtiste traversière Bertienne Spender, le pianiste Richard Klederman. Les dernières années, face à la mode de plus en plus rythmique, il s'adonnera au disco et convergera souvent vers des rythmes annuels. Ce sera l'un des orchestres dont la discographie Moucrécillon, puis CD, reprenant les vinyles ou nouveaux, sera la plus importante en diversité vendue internationalement. Je vous invite à écouter pour terminer cette édition un dernier titre qui s'intitule « Daddy Cool Money ». Et je vous dis à très bientôt.
Chers amis, bonjour. Bonjour Gisèle. M comme musique votre émission dans votre radio régionale Radio Galaxie. Voilà que cela fait déjà quelque temps que nous vous transmettons cette émission afin de vous faire découvrir pour les uns et de vous rappeler des bons souvenirs pour les autres avec de belles chansons et de belles voix. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Enrico Caruso. Je dois vous dire que nous travaillons pour vous donner la meilleure audition possible vu que certains enregistrements datent depuis beaucoup d'années. Mais avant de commencer l'histoire de notre ténor, je vous invite à écouter, avec sa magnifique voix, Una furtiva lacrima. Enrico Caruso, de son vrai nom Enrico Caruso, est un ténor italien né à Napoli le 25 février 1873 et mort le 2 août 1921 dans la même ville. Il est considéré par de nombreux critiques comme l'un des plus grands chanteurs d'opéra de tout le temps. Élève à Napoli, dans une famille pauvre de cet enfant, il fait d'abord partie de la chorale de la paroisse. Comme son père, à l'âge de 10 ans, il commence à travailler comme mécanicien, puis comme ouvrier dans une fabrique de tissus. Il passe ses moments libres à interpréter des chansons populaires dans les restaurants de la ville. Il suit les cours de Guglielmo Vergini pendant 3 ans, et même si Caruso maîtrise mieux la technique vocale, il a encore du mal à déchiffrer une partition. Ne sait que jouer d'aucun instrument et continue à chanter essentiellement d'oreille. En 1895, à 22 ans, Caruso fait ses débuts dans L'Amico Francesco, un opéra de Domenico Morelli, et il est repéré par des impresarios et se voit confirmer rapidement les premiers rôles dans Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, Faust de Charles Gounod, Rigoletto et La Traviata de Giuseppe Verdi. Écoutez notre ami Caruso nous interpréter « Oh sole mio ». En 1897, il se prend des passions pour la soprano Ada Giacchetti Botti. sa partenaire dans la Traviata et la Bohème de Giacomo Puccini à l'Opéra de Livourne. Celle-ci quitte le domicile conjugal pour vivre avec Caruso. Le couple aura par la suite, hors mariage, deux garçons, Rodolfo et Enrico. Le 17 novembre 1898, Caruso crée Fedora, un opéra de Umberto Giordano sous la direction du compositeur lui-même. La représentation obtient un grand succès et Caruso est assailli de nouvelles propositions de contrat. Son expérience de la scène et de nouveaux cours de chant pris auprès de Vincenzo Lombardo lui permettent de progresser encore au point de susciter l'admiration de Puccini qui lui fait passer une audition et de Toscanini qui l'engage en 1900 pour interpréter la Bohème à la Scala de Milano. Sa voix chaude et puissante lui vaut une réputation qui dépasse les frontières. Caruso chante à Covent Garden en 1902, donne le concert aux États-Unis et se permet même de chanter sans microphone au Yankee Stadium de New York. Voici notre ténor qui nous interprète Fenesta che lucive. Et il est l'une des premières vedettes de l'enregistrement phonographique, ce qui lui assure la reconnaissance d'un plus grand large public. Son premier enregistrement est réalisé sur un gramophone le 11 avril 1902 dans une chambre d'hôtel de Milano. De nombreux autres suivront. On compte aujourd'hui 488 disques, pratiquement tous produits par RCA Victor, qui lui ont rapporté plus de 2 millions de dollars. Ces enregistrements ont fait de Caruso un modèle universel pour des générations de ténors. Et sa réputation a joué un rôle majeur dans le succès social et économique du phonographe, écrit The New York Times. Il enregistre ainsi un grand nombre d'airs de chansons traditionnelles, parmi lesquelles Una furtiva lacrima, L'Elessir d'amore, Addio a Napoli, Cuba, Raquel Candu Seigneur, La Juive, Celeste Aida, Amore au Grillo, avec Antonio Scotti, Vesti la Giuba, Les Pugliacci, qui sera l'un des principaux succès, et Libiano, Nellietti Galici, La Traviata, avec Alma Gluck. Il chante en français, en espagnol, en anglais, en italien et en latin. Partout où il passe, c'est un triomphe. Les concerts américains marquent l'apogée de la carrière de Caruso. En 1903, il est acclamé par la critique pour son rôle dans Rigoletto de Metropolitan Opera de New York. La salle devient la scène préférée. Il y crée plusieurs grands rôles de ténor. Les journaux le surnomment alors le Grand Caruso. En 1906, alors qu'il joue Carmen à San Francisco, il doit quitter précipitamment la ville à la suite d'un tremblement de terre. Je vous invite donc à écouter Caruso qui nous interprète « Vieni sul mar ». Sa liaison avec Ada s'envenime. Il lui interdit de continuer sa carrière de chanteuse. Elle refuse de l'accompagner dans une nouvelle tournée aux États-Unis. En 1908, Ada part et refait sa vie avec le chauffeur Cesare Romanti. Caruso poursuit sa carrière, mais il est de plus en plus souvent victime de problèmes de santé. Gros fumeur, il est victime de nombreuses angines, bronchites et migraines. Il retourne à Milan en 1909 pour subir une intervention chirurgicale suite à l'apparition d'un nodule sur une corde vocale. Pour échapper à la guerre, il entame une tournée en Amérique du Sud en 1917 à 1919, participant à une collecte de fonds en faveur des Alliés. Il rencontre alors la jeune américaine Dorothy Park Benjamin, qu'il épouse en 1918 et avec qui il aura une fille l'année suivante. En 1920, il chante Aïda à La Habane, à Cuba, pour 10 000 dollars. Les billets se vendent jusqu'à 35 dollars chaque. Une fortune à l'époque, ce qui suscite la colère du public. Le soir de la première représentation, la salle est la cible d'un attentat à la bombe. Sa santé s'aggrave à partir de 1920. Victime d'une pleurésie et d'une infection généralisée, il subit 6 opérations en 3 mois. Puis, le 3 décembre 1909, il se blesse au rein gauche lors d'une représentation de Samson et Dalila de sa essence au Metropolitan Opera. Il retourne alors à Napoli où il meurt d'une septicémie le 2 août 1921 à l'âge de 48 ans. L'Italie décrète un deuil national. Il est inhumé à Napoli dans une chapelle à son nom. Et c'est avec cette chanson « Musica Proibita » que nous allons nous quitter pour aujourd'hui, chers amis. Merci pour votre attention et votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.